Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit : tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Cette femme qui a perdu la drachme, cette pièce d'argent, réunit toutes ses amies pour fêter avec elle le fait de l'avoir retrouvée. Si l'on suit une logique comptable, eh bien, c'est un peu absurde de réunir toutes ses amies. Peut-être va-t-elle dépenser pour les nourrir le prix équivalent à cette drachme. Pourtant, la logique de Dieu est exactement inverse. Cette brebis qu'il part rechercher dans le désert en laissant les 99 autres, cette brebis est irremplaçable. Cette brebis est irremplaçable de sorte que tous les efforts, toutes les dépenses ne sont rien à côté du fait de la retrouver. Nous valons beaucoup plus que tous les biens de la terre. Nous sommes aimés de Dieu et nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons dans cet évangile une magnifique description de qui est l'homme, de ce qu'est l'homme. L'homme est un mystère voulu par Dieu, et qui, à cause de sa ressemblance à Dieu, a une dignité que rien ne peut éteindre, que rien ne peut amoindrir. L'amour de Dieu pour l'homme s'explique comme cela. Chaque homme est un mystère à ses yeux, chaque homme a du prix, et un prix incalculable. De notre point de vue d'homme pécheur, quand nous avons péché, nous sommes tentés de nous dire « Mon péché a diminué ma dignité, mon péché a en quelque sorte éteint l'amour de Dieu pour moi. Comment oserais-je revenir chez mon Père ?» Alors nous faisons tout un calcul, nous faisons les questions et les réponses du dialogue avec notre Père quand nous le retrouverons. Je serai allongé devant lui et je lui dirai « Père, je mérite à peine d'être un esclave » et il me dira « Oui, c'est vrai, deviens un de mes esclaves, on verra plus tard si je te pardonnerai. » Ce dialogue que nous faisons en nous, vient-il de Dieu ou vient-il du démon ? Nous voyons dans l'Évangile que le Père n'y prête aucune attention. Le Fils n'a même pas le temps de finir. « Je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses domestiques, « Vite apportez le plus beau vêtement. » Cet amour que Dieu nous porte, cette valeur de chacune de nos vies, est infini à côté de notre péché, à côté de notre trahison. Et tous les péchés du monde ne peuvent faire le poids à côté de l'amour de Dieu. Il y a donc en nous la voix du tentateur qui nous dit « Tu te rends compte ce que tu as fait, tu ne vas quand même pas revenir à Dieu. » Cette voix, nous sommes peut-être tentés de l'attribuer à Dieu, de nous dire « C'est sûrement Dieu qui m'inspire cette culpabilité. » Dans l'Apocalypse, Le démon est appelé accusateur et le Christ sauveur, libérateur. Alors acceptons d'être sauvés. Acceptons de croire que nous sommes sauvés et peut-être d'abord que nous sommes sauvables. Jésus est venu nous sauver. Dieu s'est fait homme pour nous sauver et Jésus est allé jusqu'à verser son sang pour nous sauver. Et alors, laissez résonner en nous cette voix de la culpabilité qui du coup renonce à demander pardon, c'est dire à Jésus, peut-être es-tu mort pour rien, en tout cas pour moi. Mon péché est plus grand que ton amour. Le XXe siècle a été le siècle des pires crimes, des pires atrocités. Et il a été aussi le siècle de la plus grande révélation de la miséricorde. Il y a eu le cœur sacré à Paray-le-Monial, il y a eu Sœur Faustine et tant d'autres, mais je retiens cela particulièrement. Où Jésus présente ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en est si peu aimé en retour, mais il dit « la miséricorde sera le dernier rempart ». Nous n'avons qu'un espoir, c'est la miséricorde du Christ. Comment faire l'expérience de cette miséricorde ? Eh bien, en s'y plongeant. Et comme nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin d'événements concrets. Et cet événement, il s'appelle la confession, le sacrement de la miséricorde. Malheureusement, nous en avons peur, mais peut-être parce que résonne en nous, plus fort que la voix du Seigneur, la voix de l'accusateur. Aller se confesser, c'est une immense joie. Mais comment ressentir comme une joie cette démarche ? Eh bien, peut-être en entrant dans la joie du ciel dont Jésus nous parle. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Les anges du ciel se réjouissent quand un pécheur revient vers son Père. Alors nous comprendrons que le péché aux yeux de Dieu n'est rien. Le péché est un gâchis. Quand Jésus regarde le pécheur, il se dit mais mon pauvre, qu'est-ce que tu as choisi là ? Regarde, tu es tout sale. Quel bonheur insignifiant tu as préféré à ce bonheur immense que je veux te donner. Et comme le Père dans la parabole, Dieu est saisi de pitié devant notre péché. Parce que c'est la créature qu'il aime et qu'il aime jusqu'à verser son sang qui s'est abîmé. Alors n'ayons aucune crainte de venir accuser notre péché, mais plutôt soyons remplis de joie. Soyons remplis de joie parce que nous sommes aimés. Et Dieu nous cherchera jusqu'à nous trouver. Et rendons grâce au Seigneur pour le don de sa vie, le don de sa vie éternelle à nous pauvres pécheurs qui ne l'avons pas mérité mais qui la recevons parce que nous sommes aimés. Un des grands devoirs du chrétien, c'est la miséricorde. C'est aimer le pauvre. Comment aimer le pauvre ? Eh bien, principalement en vivant comme un pauvre vis-à-vis de Dieu. Dans la mesure où nous savons que nous sommes pardonnés, nous pardonnerons. Peut-être dans un petit examen de conscience, nous pouvons évaluer notre façon, notre miséricorde. Si nous sommes durs avec celui qui nous semble être un pécheur, Peut-être est-ce que nous nous sentons jugés par Dieu, ou qu'en tout cas nous n'avons pas expérimenté ce pardon de Dieu. Alors demandons au Seigneur de voir notre péché, mais de le voir comme il le voit. Sinon, nous serions tentés de déprimer, de désespérer. Alors que lui ne perd pas espoir, lui est plein d'espérance quant à nous. Cette espérance, elle est nourrie par l'Eucharistie, qui est la vie même de Dieu, qui vient dans notre pauvre âme, mais qui vient pour l'illuminer, pour la remplir d'amour et pour la transfigurer. La vie éternelle commence dès ici-bas, c'est là notre plus grand bien. Renouvelons notre consécration à Dieu, au Seigneur miséricordieux, en le préférant à tout autre bien et à tout péché, ces biens qui passent et qui ne nous rendent pas heureux. Amen.